L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Marseille, en France, le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Avec lui, nous allons analyser la situation en Libye sur fond de la polémique qui vient d'éclater dans le pays quant à une éventuelle normalisation des relations avec Israël. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution libyenne correspondant au jour de l'arrivée au pouvoir de Muammar Kadhafi, qui est devenu chef de l'État en septembre 1969, nous nous pencherons sur la situation politique et économique dans le pays, sur fond de la situation de plus en plus tendue dans le Sahel. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le premier ministre du gouvernement libyen basé à Tripoli, Abdelhamid Beyba, a finalement limogé sa chef de la diplomatie, Najla El Mengouch, lundi 28 août au soir pour avoir rencontré récemment son homologue israélien en Italie. Une entrevue allant à l'encontre des lois libyennes et dont il était forcément au courant, estime des analystes. Abdelhamid Beyba l'a annoncé depuis l'ambassade palestinienne à Tripoli, comme le rapporte la représentation diplomatique dans les réseaux sociaux. Le Premier ministre s'y est rendu pour exprimer le soutien libyen à la cause palestinienne, affirmant que la position de Najla El Mengouch ne représentait pas le gouvernement de la Libye ni son peuple. La Libye ne reconnaît pas Israël jusqu'à ce jour et s'oppose à toute normalisation avec l'État hébreu, avait expliqué alors le Premier ministre libyen. Des mouvements de protestation populaire ont éclaté à Tripoli dans plusieurs villes de la Libye et la maison du Premier ministre a été attaquée même par des manifestants. Des groupes de jeunes ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi le drapeau palestinien. Il y avait un vrai sentiment d'outrage dans la population face aux politiques d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, chose qui interdit culturellement et politiquement tout rapprochement avec l'État hébreu. En Libye, toute relation avec Israël, ses ressortissants ou toute entité, le représentant est passible de poursuites pénales assorties d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans en vertu d'une loi datant de 1957. À la veille de la 18e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient en septembre, la Russie a rappelé que le processus politique en Libye est au point mort et que les principales forces politiques nationales restent divisées. Moscou s'est prononcé favorable au rétablissement rapide des institutions étatiques unifiées et à la tenue des élections présidentielles et parlementaires. Alors, pour discuter de la situation politique, sociale et sécuritaire dans ce pays, j'ai le plaisir de recevoir depuis Marseille le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Yahya Zoubir, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci pour l'invitation.
Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, professeur Zoubir, comment analysez-vous les dessous de cette polémique? Est-ce qu'il y a vraiment des velléités de vouloir normaliser les relations avec Israël? Qu'est-ce qui se cache derrière? Comment voyez-vous la chose? Voilà.
C'est un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est surprenant de la part du gouvernement à l'ouest du pays. Mais ceci dit, il y a eu déjà des contacts apparemment entre un des fils de Haftar, à l'est bien sûr, avec des membres du Mossad ou des fonctionnaires israéliens. Mais on n'en a plus entendu parler, on a suggéré que c'était les Émirats arabes qui incitaient la Libye à normaliser ses relations avec Israël, mais on n'en a plus entendu parler. Donc cette sortie de Mme Mengouche est pour le moins surprenante. Mais il faut dire que la réaction du gouvernement qui dit que c'était une action individuelle, il me semble que c'est faux, parce que le ministre israélien a détaillé, même les Italiens ont parlé d'une sorte d'intercession dans cette affaire. Donc, mais c'est surprenant. Pourquoi ? C'est très difficile à décider. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mme Mengouche n'aurait pas pu le faire sans le consentement du Premier ministre. Et donc, la réaction était un peu un cafouillage, puisqu'au début, c'était une suspension et éventuellement un renvoi, carrément. Et surtout que Mme Mengouche, à ma connaissance, a un lien de parenté avec Dbeiba. M. Dbeiba, c'est un peu membre de la famille indirectement par alliance. Et donc, elle est proche et je ne pense pas qu'elle ait pu faire, qu'elle soit entrée en discussion avec son vis-à-vis israélien pendant 2 heures sans l'accord de M. Dbeiba.
Alors, il y a des informations qui ont circulé, comme vous l'avez dit d'ailleurs, et que probablement il s'agit d'un accord entre le commandant de l'armée libre libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, et Abdelhamid Dbeiba, le chef du gouvernement de Tripoli. Et c'est, en fait, ils disent que, voilà, il y a probablement un accord pour se partager le pouvoir en Libye, et sans qu'il y ait obligation de passer par les élections, ni présidentielles, ni législatives, du moment que les conditions ne s'y prêtent pas. Voilà. Et apparemment, le rapprochement avec Israël vise justement à avoir un appui pour cette démarche. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que c'est un mauvais calcul, parce que ils n'ont pas tenu compte de la population libyenne, que n'oublions pas que c'était une ancienne colonie qui a souffert du colonialisme italien, etc., et que depuis longtemps, depuis son indépendance, la Libye a soutenu, que ce soit le nationalisme arabe, et bien sûr à son cœur la Palestine. Et donc, c'est un mauvais calcul de la part de ceux qui ont incité Mme Mengouche à entrer en discussion avec son vis-à-vis. La population, et c'est vrai, vous avez parlé des lois, oui, il y a des lois en Libye, et donc qui punissent tout officiel qui négocie avec Israël ou qui rentre en contact avec des officiels israéliens. Donc ça, c'est, je pense, un mauvais calcul. Mais il est très difficile de voir en quoi Israël pourrait aider une partie ou l'autre, à part peut-être militairement, et encore, déjà qu'il y a plusieurs présences de forces étrangères en Libye, et c'est ce qui est probablement le frein à une solution. Bien sûr, il faut tenir compte des élites politiques libyennes qui n'arrivent pas à s'entendre. Et plus, il faut y ajouter les milices.
Justement, il y a pas mal d'analystes, en tout cas de ce que j'ai pu voir, qui estiment justement le passage par la porte d'Israël, ce qu'il s'agit d'une manœuvre donc du Premier ministre pour gagner, en fait, les faveurs des USA. C'est un peu comme à l'image de ce que s'est passé pour le Soudan ou pour le Maroc concernant la question du Sahara occidental. Et donc, en jouant la question de la normalisation avec Israël, c'est pour que Israël, justement, fasse pression sur les tenants de la politique extérieure américaine pour soutenir sa position et le plan qu'il a concocté avec le maréchal Haftar. Que pensez-vous ?
Mais Dbeiba, la Tripoli a le soutien de la Turquie, donc qui est membre de l'OTAN, qui a amélioré récemment ses relations avec les États-Unis. Donc je ne vois pas l'utilité de faire intervenir un pays dont la présence ou des accords avec lesquels des accords sont nuls et illégaux. C'est pour ça que je dis, oui. En quoi, qu'est-ce que pourraient faire les États-Unis? Les Nations Unies reconnaissent le gouvernement de Tripoli. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi aller à l'encontre des lois, des principes. C'est vrai qu'on ne peut pas parler vraiment d'État en ce moment en Libye. On a
oui, mais c'est que le problème, si c'est vrai, hein, si c'est oui. vrai, bien sûr, ben moi je le prends avec au conditionnel, les déclarations de ces experts, mais si c'est vrai, c'est qu'ils ont concocté un accord pour prendre le pouvoir sans faire appel justement à la population via des élections, à se partager le pouvoir.
Donc c'est un mauvais calcul. Mais j'ai lu entre les lignes, même pas entre les lignes, si on lit vraiment la déclaration du ministre israélien des Affaires étrangères, il n'a pas parlé politique, il n'a pas parlé sécurité, il a parlé plutôt d'aspect culturel. La population, la minorité juive libyenne, l'architecture, des choses de ce genre. Donc, honnêtement, sauf s'il y a d'autres aspects, mais l'essentiel, c'est que il y a eu des discussions, effectivement, des discussions qu'on ne peut pas nier, mais c'est le pourquoi qui reste encore un point d'interrogation. Oui, ça ferait plaisir aux États-Unis, mais un pays qui est dans un tel état, espérer que les États-Unis vont faire quoi que ce soit, ce n'est pas... Parce que dans la partie Est, il y a déjà les États-Unis arabes qui ont normalisé les relations. Il y a deux pays déjà. Il y a l'Égypte et les Émirats arabes, et en plus, qui soutiennent Haftar. Et les deux ont des relations normales
avec
Israël.
La Turquie aussi. Même la Turquie a des bonnes relations avec Israël.
Exactement. Ah, donc que Dbeiba dise moi aussi je veux normaliser, c'est quoi? C'est pour être sur un pied d'égalité dans sa rivalité avec l'Est. Et bien sûr, il se met sur le dos l'Algérie. Et même la Tunisie, ça crée une unanimité, les Palestiniens et la population libyenne. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un mauvais calcul. Même si l'objectif était d'obtenir un plus grand soutien de la Libye. Et entre nous, la Libye n'est pas aussi importante qu'on le pense pour les États-Unis.
D'accord.
Voilà, ce n'est pas une ça a toujours la Libye a toujours été une sorte de problème, même sur le plan des fournitures de pétrole, même pendant la période où les États-Unis importaient du pétrole du Moyen-Orient, la Libye ne représentait presque rien, à part pour ses alliés en Europe, etc. Donc, je vois sincèrement, politiquement, très mal. L'objectif de cette tentative de normalisation, si vous voulez, ou de faire partie des accords d'Abraham.
Bien, alors maintenant, après un petit commentaire sur l'actualité, revenons aux questions de fond, parce que finalement, ce sont ces questions-là qui déterminent ou qui détermineront l'avenir de la Libye. Alors, vous avez parlé de la présence de milices, donc à l'Est comme à l'Ouest. Il n'y a aucun accord politique ou militaire qui se profile à l'horizon. Et donc, le pays est complètement partagé en zone d'influence de plusieurs groupes armés comme nous l'avons vu en Syrie, comme nous l'avons vu en Irak, comme nous l'avons vu dans d'autres régions du monde, quand il y a ce genre de situation, eh ben, il y a toute une panoplie de trafic qui se développe sur ce terreau, le trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Et puis, ce qui touche encore le plus la Libye, c'est le trafic du pétrole. Et il y a beaucoup de données qui disent qu'en fait, les pays de l'Europe du Sud, notamment l'Italie, s'ils ont tenu pendant toutes ces crises énergétiques par rapport à leur agriculture ou durant le Covid, c'est parce qu'ils ont profité justement de l'achat du pétrole vendu au marché noir par ces groupes armés qui se sont partagés toutes les puits de pétrole, l'influence ou le contrôle des puits de pétrole. Alors, quelle est votre analyse, M. Yahya Zoubir, sur la situation actuelle en Libye, pour avoir l'image et la plus prête de la réalité?
Vous avez mentionné la Syrie, vous avez mentionné l'Irak. Quelles que soient les opinions des uns et des autres sur la Syrie et l'Irak, ils avaient des institutions étatiques.
Absolument.
La Libye n'en avait pas. La Libye continuait avec Mohamed Kadhafi. Qui est un pays tribal, régionaliste, tout ce que vous voulez, Kadhafi, il avait l'avantage de jouer, si vous voulez, l'équilibre entre les différentes tribus. D'autant plus que lui venait d'une tribu des plus petite tribu. Mais il a réussi à jouer ce rôle de médiateur, etc. Mais il n'y a jamais eu une construction d'État, d'un État au sens moderne du terme.
Ni même pas d'une armée.
Une armée. Et il avait les Touaregs qu'il avait fait venir du Mali. D'ailleurs, avec sa chute, on a eu les problèmes qui se sont répandus au Sahel, parce qu'on ne peut pas séparer ce qui se passe au Sahel aujourd'hui de la Libye en 2011-2012.
Oui, oui.
Ce sont les répercussions de ce qui s'est passé en Libye qui a ajouté, qui a aggravé les problèmes au Sahel, certains problèmes que vous avez mentionnés, que ce soit le trafic d'êtres humains ou que ce soit les réseaux qui ont été construits, le trafic d'armes énormément. Vous savez que jusqu'à présent, nous avons là, il y a un coup d'État au Niger, mais le Niger, les armes rentraient de Libye Niger. Donc c'était la Libye est vraiment, elle manque de la présence d'un État. Et il faut aussi insister sur le fait que pourquoi il n'y a pas de paix, et vous avez mis le doigt dessus, vous avez parlé du pétrole, mais il y a c'est tous ces aspects illicites, drogue, être humain, tout cet argent. La paix voudrait dire la fin probable.
Absolument.
De ces réseaux. Donc on continue. Et quand vous avez une élite qui n'arrive pas, enfin on appelle élite, juste pour dire, ceux qui sont à la tête de certains, enfin comme la maison, enfin les députés, tout ça, ou le chef de région, ou des directeurs, etc. Mais il n'y a pas cette volonté d'arriver à un consensus. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation si vous voulez, c'est un retour, depuis 2011, c'est pratiquement un retour à 1951, quand la Libye était divisée en trois, les trois régions, la Tripolitaine, la Cyrénaïque. Voilà, donc, et donc vous avez ça, et donc il n'y a pas eu un consensus pour dire nous sommes une nation libyenne. Et en fait, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est un aspect médiatique de ce qui se passe aujourd'hui, d'actualité, la cause palestinienne, elle est plus mobilisatrice de cette notion de nation et de soutien, etc. Et ça s'est passé partout. Si vous avez remarqué, les manifestations se sont déroulées à travers toute la Libye. C'est-à-dire, là, ça a donné un consensus. Mais pour la construction de l'État, pour arriver à la paix, comment faire, comment le faire, ça, les Libyens n'ont pas réussi, malheureusement.
Donc, c'est un problème, selon vous, c'est un problème de culture politique, beaucoup plus que les échecs ne sont que, disons, le corollaire de cet échec de culture politique. C'est-à-dire, parce que la construction d'un État, c'est d'abord un dessein commun, un objectif commun, des moyens communs, et puis un vouloir, pas juste un savoir, mais aussi un vouloir de vivre ensemble.
Un vouloir.
Vouloir vivre ensemble et le savoir aussi, et être égaux devant la loi sans aucune distinction de race ou de couleur ou tribale.
Absolument. Et vous avez aussi, vous avez le problème qui est fondamental, à mon avis, c'est la présence de plusieurs puissances étrangères.
Oui.
Plusieurs puissances étrangères. Bon, la présence de la Turquie, elle avait réussi à, si vous voulez, à éviter que Tripoli, que toute la région ouest tombe entre les mains de Haftar. Mais malgré ça, c'est des partis et même des milices sont alimentés par certaines parties externes au pays. Même les groupes armés, les groupes islamistes armés, ont eux aussi été financés par des forces étrangères. Donc, et le gâteau est très grand. La Libye, il ne faut pas l'oublier, est un pays immensément riche. Vous avez mentionné le pétrole, mais il y a autre chose. Il y a de l'eau, il y a des ressources naturelles qui existent en Libye. Vous avez 1200 ou 1400 kilomètres de côte. Et puis, il y a le gaz, il y a un grand nombre de choses. Donc, il y a cette richesse. Et une petite population. Au Maghreb, c'est la plus petite population. Vous avez à peine, maintenant je ne sais pas combien il en reste, mais c'est 5 millions, 6 millions au grand maximum, mais avec tout le monde qui a quitté ce pays instable, je pense qu'ils en sont à 4 millions au plus. Et un gâteau extraordinaire et que les élites n'ont pas réussi, il n'y a pas de force politique capable de réunir tout ce beau monde et dire, écoutez, nous sommes la Libye, nous avons un drapeau, nous avons la même langue, la même religion. Essayons de reconstruire, de construire sur de nouvelles bases. Vous avez vu que même les envoyés spéciaux des Nations Unies ont tous failli, hein, un après l'autre. Et donc, on en est au point mort, un statu quo. Et il faut attendre jusqu'à ce que les gens soient fatigués de ce statu quo pour décider de dire bon, maintenant il faut qu'on avance, il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse des compromis, mais il faut que ces compromis se fassent sans l'influence des forces étrangères, parce que pour le moment l'Est est contrôlé par l'Égypte, les Émirats arabes et autres, l'Ouest c'est la Turquie et autres, et ainsi de suite, hein, plusieurs forces qui ont de l'influence sur les différents partis, sur les différentes milices et les différents groupes. Et l'insécurité, elle alimente justement les réseaux dont on a parlé, les réseaux de trafic et
autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur Yahya Zoubir, le rapport qui a été fait par le responsable de l'ONU de la lutte contre la drogue, je ne me rappelle pas de son nom, et c'était juste après la crise de 2008, la crise financière, et où il expliquait justement que beaucoup de banques, notamment Varsovia Bank américaine, ont été renflouées avec l'argent de la drogue. Et donc, on peut aussi imaginer, de toute façon, parce que ces trafics, quand ils vendent le pétrole ou le gaz ou la drogue ou les armes, c'est ce qui les intéresse, ce n'est pas les monnaies locales, mais c'est les grandes devises, l'euro et, en particulier et le dollar. Donc, on peut aussi imaginer des connexions entre ces réseaux qui un peu se sont partagés les zones d'influence et les richesses de la Libye avec le système financier et monétaire international. Et qui profite, quand vous avez tout à fait raison de dire que le gâteau est tellement grand, juteux, qu'on n'a pas forcément envie que les choses s'arrêtent.
Exactement. Et voilà où on en est. C'est comme, je prends l'exemple de la Syrie, ce n'est pas tout à fait la même situation, mais en même temps, vous avez tous les groupes là qui avaient été financés et autres, ils avaient créé d'autres réseaux, et ils ne veulent pas que ces réseaux s'arrêtent. Ils ne veulent pas de la paix. Ils ne veulent pas de compromis avec Assad. C'est pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons pécuniaires, simplement. Ils profitent bien du système de trafic et autres.
D'accord. Et donc, tout ça, en réalité, explique l'échec de toutes les missions des Nations Unies par rapport à la résolution de la crise politique en Libye.
Ouais. Moi, en 2017, quand on avait parlé en France, c'était de dire on va organiser des élections, et j'ai trouvé ça aberrant. C'était une aberration de penser organiser des élections à un moment où il n'y avait aucun consensus. Absolument. Il faut savoir où aller avant de faire des élections, avant d'organiser des élections et autres. En Libye, les choses se règlent entre tribus, entre régions, dans des tractations, et avec des hommes forts comme Aguila et autres. Donc, il faut pas, à mon avis, les interventions étrangères sont détrimentales à la possibilité d'un compromis dans la société libyenne.
Yahya Zoubir, je vous remercie pour tous ces éclairages. Chers auditeurs, la première partie de notre entretien s'achève. Je vous retrouve en compagnie de mon invité pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Professeur Yahya Zoubir, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci de votre invitation.
Je vous en prie. Alors, pour continuer par rapport à ce que nous avons déjà développé lors de la première partie, Monsieur Zoubir, il y a quand même un bouleversement géopolitique actuellement dans le monde, notamment qui s'est un peu, disons, qui a culminé avec le sommet des BRICS en Afrique du Sud, où six nouveaux pays ont été admis dans ce cercle, dans ce club. Et ce qui est attirant, c'est qu'il y a deux pays africains en plus, donc il y a l'Égypte et il y a l'Éthiopie, qui vient de rejoindre le groupe. Alors, par rapport à la situation en Libye, l'Égypte, qu'elle le veuille ou non, elle a une frontière immense avec la Libye, donc on peut supposer qu'elle n'a aucun intérêt que ce pays continue à être déstabilisé ou à être dans une instabilité chronique qui pourrait mal finir, y compris pour sa sécurité nationale. Et nous avons l'Afrique du Sud, qui est un allié de longue date de la Libye, qui est membre de ce groupe, et c'est un groupe qui commence à avoir de l'ampleur de plus en plus importante. Et il y a là la situation au Sahel. Est-ce que ce nouveau contexte ne pourrait pas aider et participer à une stabilisation du pays, à forcer toutes les parties à s'asseoir autour d'une table et s'entendre sur une solution acceptée par tous et viable surtout, parce qu'il ne faut pas juste question de trouver un compromis, pour avancer vers une solution politique.
Évidemment, tout le monde arrive à plus ou moins faire un diagnostic de la situation, des problèmes, que ce soit des problèmes migratoires, des migrations illégales ou clandestines, Palestine, comme on veut l'appeler, où là s'incrustent aussi des réseaux pour faire passer. Et puis il y a tout un système d'esclavage qui a eu lieu en Libye. Il y a, les problèmes sont immenses. Le trafic d'armes et autres. Et vous avez raison de dire que au côté est, c'était l'Égypte qui partage une longue frontière avec la Libye, qui s'inquiète pour sa sécurité nationale et autres. Mais vous avez aussi l'Algérie, qui a presque 1000 kilomètres de frontière avec l'Algérie, avec la Libye, pardon, et qui est elle aussi se préoccupe justement.
C'est-à-dire quand on voit ces deux pays, l'Algérie et l'Égypte, si l'on rajoute, c'est-à-dire les pays du Sahel qui sont actuellement sur la même ligne, sur la même longueur d'onde avec l'Algérie, pourquoi pas déjà l'Algérie et l'Égypte à deux peuvent déjà peser lourdement pour avancer vers une solution. Qu'est-ce qui bloque
Moi, je peux vous dire que l'Algérie, par exemple, avait été plus ou moins marginalisée jusqu'au congrès de Berlin.
D'accord.
Au congrès de Berlin, qu'on a fait appel et que l'Algérie commençait à être, en tout cas sa voix, se faisait entendre un peu plus. Mais il y a eu cette présence, comme j'ai dit, de plusieurs puissances étrangères, puissances d'argent, puissances et autres, des alliances qui s'étaient faites et qui ne voulaient pas, justement, qu'il y ait une résolution qui ne leur plaît pas. Mmh. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas la paix, mais c'est une paix qu'ils veulent en leurs propres termes, qui les arrange à eux. Il y a des... Dans tout ça, il y a aussi l'aspect... il y a une dimension idéologique. Idéologique dans le sens où vous avez les salafistes à l'Est. Bon, ce sont des appellations, mais qui ont joué un rôle. Contre les frères musulmans. Mm-hmm. Par exemple, la Turquie soutient les frères musulmans. Donc, les le miroir de l'AKP turque en Libye. Donc, la Turquie a joué sur ça. L'Algérie a voulu jouer neutre, sa médiation en faisant appel à toutes les forces sauf les groupes criminels et les groupes terroristes comme l'ACMI ou comme Al-Qaïda ou Daesh. Les Égyptiens étaient opposés à ça, étaient opposés parce que les Égyptiens voulaient leur force à eux et ne voulaient pas des frères musulmans participer à toute négociation, toute transition avec des membres des frères musulmans impliqués. Parce que l'Égypte a eu des problèmes avec les frères musulmans. Et Haftar, pourquoi Haftar avait obtenu le soutien justement des Émirats et de l'Égypte à cause de son opposition justement aux frères musulmans. Donc vous avez, la complication, comme on dit, est grande.
Mais dans le contexte actuel, Monsieur Zoubir, parce que si l'Égypte a intégré le BRICS, justement, ou si l'Éthiopie a intégré le BRICS, c'est dans le but, ou les Émirats Arabes Unis aussi, c'est dans le but que, leurs économies se développent et qu'ils trouvent un peu plus d'espace pour développer leur sécurité nationale, leur sécurité économique, de l'industrie, les voies, qu'elles soient maritimes ou terrestres, du commerce et du transport de marchandises. L'Égypte, par exemple, dans l'état actuel, comment peut-elle justement aller dans ce sens alors que là, la Libye complètement déstabilisée, alors au sud, le Soudan qui est à feu et à sang, Et à l'Est, là, le problème palestinien, justement, qui ne trouve pas de solution. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que la situation actuelle, le contexte actuel, n'inciterait pas, justement, toutes ces forces étrangères qui ont un peu, gangréné la situation, pour utiliser un mot un peu qui peut résumer, est-ce que cela ne va pas les inciter à penser encore plus à amener des solutions, et c'est pour leur profit déjà.
On peut le penser. Évidemment, des gens rationnels pensent à ça. Qu'on va au BRICS, c'est plutôt une organisation, une association, comme on veut l'appeler, basée surtout sur l'économie. Bien sûr, il y a des dimensions géopolitiques. Mais comme vous parlez de l'Égypte par rapport à la Libye ou même les Émirats arabes, si les forces internes ne se mettent pas d'accord, que peut faire l'Égypte à part continuer le statu quo de la partie Est? C'est à mon avis, c'est tout ce qui est... Et les Émirats arabes, la même chose. Maintenant, si l'Égypte et les Émirats arabes font appel à l'Algérie, à la Turquie, et de dire, voilà, faisons une conférence et voyons comment on peut aider la Libye à sortir de cette crise en investissant et en faisant, c'est une possibilité. Maintenant, il y a des pays comme l'Algérie qui sont spécialisés dans la médiation. L'Algérie a réussi, même si c'est pas un modèle parfait au Mali, à faire taire les armes et un petit peu à rassembler les Maliens avec les accords de Bamako, les accords d'Alger, comme on peut les appeler, de 2015. Mais c'est le problème, surtout interne et aggravé par justement le fait qu'il n'y ait pas une entente entre les forces étrangères à l'intérieur même de la Libye. Mais je suis d'accord avec vous que ce qui pourrait aider à faire sortir la Libye de cette crise, c'est d'offrir une stabilité pour le développement. Parce qu'on ne peut pas avoir de développement en Libye si on n'a pas une stabilité politique. Et or, les forces politiques...
Et on ne peut pas avoir de paix sans développement. C'est-à-dire que les...
Exactement. je suis entièrement d'accord. Moi, je suis d'avis que le développement... ramène la paix. Mais il faut lui donner, justement les moyens à cette paix d'arriver, pour avoir ce développement. Donc les deux vont la main dans la main, développement et sécurité, il n'y a pas de doute là-dessus.
Alors, par rapport, Monsieur Zoubir, la question suivante, c'est par rapport à la situation globalement dans le Sahel. Alors, si la chose politique ne se stabilise pas dans les pays du Sahel, et notamment au Niger actuellement, qui, rappelons-le, a une frontière de plusieurs de centaines de kilomètres avec la Libye. Est-ce qu'on ne risque pas de voir toute cette région-là exploser, on voit un embrasement dans cette région-là, et puis, à partir de là, si c'est ça le plan, ceux qui attisent le feu, qu'est-ce qu'ils cherchent derrière ça?
Vous savez, la pire chose qui pourrait arriver au Niger, c'est une intervention militaire. Mmh. Parce que ça ferait revivre dans le triangle, vous savez, les groupes terroristes présents entre le Niger, le Burkina Faso, le Mali... et autres, et même ceux qui vont initier une intervention militaire vont le payer. Ils vont payer cher parce que il y aura une déstabilisation générale. Et ça, c'est pas le figment de mon imagination, c'est une réalité. Le Sahel est, comme disait un ancien premier ministre, c'est le couloir de tous les dangers. Il y a de tout. C'est-à-dire il y a des trafics de tout genre, mais il y a aussi des populations qui interagissent, qui font du commerce ensemble, etc., mais qui s'appauvrissent de plus en plus. Il y a une pauvreté, il y a une absence de développement humain. Vous savez, le Niger, vous allez tomber des nues, est classé 189e sur 191 pays dans le développement du PNUD.
Oui, oui, oui.
Dans les indices de développement.
C'est l'un des pays les plus pauvres.
Et c'est un pays des plus riches. Et, ouais. Et sur le plan des matières, des ressources naturelles, c'est un des plus riches avec l'uranium, etc. Moi, je vis en France, je sais qu'une partie d'électricité chez moi vient du Niger, de grâce à l'uranium nigérien qui est traité dans des centrales nucléaires, etc., centrales électriques et autres. Et pourtant, les gens vivent sur moins de 2 dollars par jour.
Oui.
Donc, vous voyez un petit peu ce qui cause cette déstabilisation. Il y a aussi une politique qui avait été appliquée dans les pays du Sahel, les francophones, par exemple, avec cette notion de France-Afrique, dont on parlait toujours, chaque président dit « c'est fini, moi je vais arrêter cette France-Afrique ». Ça s'est jamais terminé. Vous avez des élites au pouvoir qui travaillent main dans la main avec l'ancienne puissance coloniale, avec des institutions qui bénéficient les puissances l'extérieur, disons, mais pas les populations locales et autres. C'est pour ça que vous voyez que la présence étrangère qu'on a justifiée par une lutte contre le terrorisme, etc., elle n'a pas réussi à mettre dehors le terrorisme.
Mmh.
Mais par contre, les livraisons d'uranium continuent. Mmh. Vous comprenez?
Ouais,
ouais. Donc, et là, vous voyez la population. Pourquoi que la population, nous sommes tous contre les coups d'État, les changements anticonstitutionnels, le gouvernement, etc. Mais pourquoi que la population soutient justement les putschistes?
Mmh.
C'est parce que ils n'ont plus d'espoir. Les militaires, ils ont ce qu'ils disent, leurs griefs sont conformes à ce que la population, elle aussi, a comme grief. Contre la présence de forces étrangères, contre ceci, cela. Maintenant, qui pousse dans la CDAO, qui pousse pour cette intervention militaire? Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire est légitime dans sa position pour demander à ce qu'il y ait une intervention militaire? Qui va rapporter quoi? Cette intervention militaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir parlé avec une ambassadrice des États-Unis, le Nigeria commence à favoriser une solution pacifique, tout comme l'Algérie, qui, vous avez pris le ministre des Affaires étrangères algérien, qui est parti au Bénin, au Ghana et au Nigeria pour les convaincre qu'il faut résoudre ça d'une manière qui n'envenime pas les choses. Vous imaginez une guerre, une intervention militaire au Niger, avec des forces comme le Burkina Faso et le Mali qui se sont engagées à défendre le Niger. Et de Niger, vous avez le nord du Nigeria et une partie du Niger. C'est la même ethnie. Vous avez des relations fraternelles, des relations
ethniques. Même familiales, oui.
Donc, voilà. Donc, vous avez créé, et déjà maintenant, on est en train d'affamer les populations. Les sanctions ne vont pas favoriser, puisqu'on a fermé aussi des frontières, on a imposé des sanctions.
On a coupé l'électricité.
Voilà, l'électricité. Et on sait que les sanctions ne rapportent pas grand-chose, à part faire du mal aux populations locales. On l'a vu en Libye dans les années 80, on l'a vu en Irak, on l'a vu au Soudan, toutes ces sanctions font du mal, un mal énorme aux populations qui sont déjà appauvries, qui vivent dans des conditions inimaginables. Alors, rajouter encore des sanctions et intervenir militairement serait une catastrophe pour tout le monde. Les pays algériens partagent 1000 km de frontières avec le Niger.
Et l'Algérie
a souffert du terrorisme. Pardon?
D'autant plus qu'il faut le rappeler que la Libye a été détruite par l'intervention de l'OTAN sous instigation française. L'acteur principal dans l'intervention en Libye de l'OTAN était la France de Sarkozy. Et là, actuellement, dans tout le Sahel, c'est aussi la France qui est pointée du doigt, d'abord au Mali où il a été chassé, enfin les unités de l'opération Barkhane, et qui sont actuellement au Niger, environ 1100 soldats qui sont déployés presque à côté de la région des trois frontières. Et à cela s'ajoutent 1500 soldats américains dans des bases militaires, notamment de drones, au nord du Niger, à Agadez, dans la région d'Agadez, et puis des soldats allemands et des soldats italiens, ainsi de suite. Donc, justement, la question se pose, est-ce que c'est juste, on voit que ce sont les mêmes acteurs qui ont un peu embrasé la Libye et qui sont mis en cause ou qui sont aussi dans l'œil du cyclone au Sahel, on se demande où vont aller les choses. Qu'est-ce que vous en pensez?
De toute façon, personnellement, c'est intellectuellement, je suis contre la présence de troupes étrangères dans un pays. Certes, si vous êtes invité par le gouvernement légitime, etc., parce que vous avez un gros problème, personne ne s'était opposé, par exemple, à l'intervention en 2013, l'opération Serval, etc. Mais après, on ne savait plus ce que cette présence ramenait aux populations locales. Donc, rien n'avait changé. Le terrorisme continuait, les populations avaient faim, etc., etc. Donc, le problème est que on s'intéresse aux ressources naturelles de ces pays, comme dans le bon vieux temps, et on ne s'intéresse pas au bien-être et au développement de ces populations. Il n'y a pas de programme, de véritable programme de développement. Il y a beaucoup de régimes sans les nommer qui sont au pouvoir par la grâce du soutien de puissances étrangères, oui. Notamment par la France. Oui, c'est vrai, hein, la France-Afrique. Maintenant, vous avez vu que le Gabon bouge. Le Gabon bouge. Ça va être un peu partout. Il va y avoir un effet boule de neige. Cela veut dire, parce que si vous regardez le Sahel dans sa totalité, c'est pratiquement les mêmes problèmes que connaissent les populations.
Absolument.
Et puis il y a et vous avez la crise du climat qui en rajoute. Et vous avez des clashs pour l'eau. Vous avez et bien sûr avec le climat, et vous pouvez plus avoir votre, il n'y a plus d'agriculture. Les gens veulent fuir vers le nord, et donc vous aggravez la situation dans le sud des pays du sud. En Algérie, vous savez, maintenant, je ne sais pas si vous voyagez en Algérie ou en Tunisie, vous allez voir, il y a beaucoup une population subsaharienne qui reste, qui n'arrive pas, puisqu'ils n'arrivent pas à aller en Europe, ces immigrants restent dans les pays. Et puis, il y en a parfois, les pays ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, puisque eux-mêmes ont des problèmes, et donc vous créez d'autres problèmes. et la Libye pour les rattacher, parce que vous avez raison, la Libye est liée à ça. Et avec les trafics qui se font entre la Libye et certains pays du Sahel, vous avez une vue d'ensemble des problèmes qui existent. Donc, je reviens à votre point que vous avez soulevé tout à l'heure. Oui, si on ramenait déjà une stabilité à la Libye, elle peut avoir un effet boule de neige aussi pour s'occuper des pays. Parce que c'est bien de dire il faut arrêter la drogue, il faut arrêter ce trafic, il faut faire ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous donnez en échange?
Absolument.
À ces gens avant?
C'est le même problème qu'on a vu en Afghanistan.
Oui.
C'est facile, voilà. C'est ce que les talibans ont fait, ont rasé tous les champs de pavots, mais comme ils n'ont pas apporté d'alternative aux agriculteurs, pauvres, il faut le dire, et ben, dès qu'ils ont été chassés du pouvoir, la culture du pavot s'était multipliée par 8.
Exactement. Parce qu'il n'y a pas de... Et comme moi j'ai travaillé sur les questions de désarmement des milices, etc. Ok, vous désarmez des milices, vous lui dites, tu me donnes ta Kalachnikov, je te donne 300 euros pour vivre. Et après, certains, oui, vous pouvez les mettre désintégrés dans l'armée, ils ont un salaire régulier, etc., etc., mais pas pour d'autres. Il dit, moi, avec ma Kalachnikov, je garde mon pain, je nourris ma famille... Et pourquoi que les...
Une dernière question, Monsieur Yahya Zoubir.
Oui.
Parce que la pauvreté, justement, qui s'est installée et qui est endémique depuis des décennies, est-ce que le changement climatique, est-ce qu'il ne rajoute pas un problème qui risque d'attiser, et vous venez de le soulever, ce point-là, les conflits ethniques entre le Nord et le Sud sur le contrôle des ressources d'eau, des pâturages pour le bétail, et ainsi de suite. Parce qu'on a beaucoup tendance à oublier ce problème, alors que les problèmes ethniques sont très très présents et très très pesants en même temps dans les relations entre pays et même à l'intérieur d'un seul pays, entre différents cercles sociétaux.
Tout à fait, c'est précisément le cas. Et ce n'est pas uniquement ethnique, c'est aussi entre nomades et sédentaires. Parce que les nomades passent pour prendre, ils vont prendre de l'eau. Pourquoi que par exemple, au Mali, au Nord-Mali, pourquoi que les Touaregs, qui étaient revenus de Libye, etc., demandaient l'indépendance de l'Azawad, etc. L'Azawad, vous savez que Azawad veut dire puits, c'est de l'eau, parce qu'il y a de l'eau dans cette région, et ça attire, il y a convoitise d'autres groupes. Mais là, vous arrivez à une situation où il n'est pas que certaines zones ont de l'eau. Les zones qui avaient de l'eau n'en ont plus. Nous, on vit ici, en Europe, vous voyez déjà l'effet du climat sur la question d'eau. En Espagne, en France, dans le sud de la France, on limite l'utilisation. Il y a même une police qui contrôle l'eau. Alors, imaginez dans des pays pratiquement désertiques, arides, et ce changement climatique va en rajouter beaucoup plus. Et moi, je prédis que les grands conflits qui vont avoir lieu à l'avenir, c'est au sujet de l'eau. L'eau est un problème extraordinaire dans les relations internationales, dans les situations, dans les pays, tel que le Sahel, il y a un vrai, vrai problème causé par le changement climatique. Vous avez des animaux qui meurent, donc il n'y a pas de nourriture. Il n'y a plus de sécurité alimentaire. Donc vous avez une propagation de problèmes dus à un vrai problème qui est le climat. Le climat au Sahel. Avant, le Sahel avait... Et d'ailleurs, ce qui sépare le Sahel du Sahara, c'est que le Sahel a une écologie différente où il y a de la pluie. Mais maintenant, il n'y a pas de pluie. Avant, il y avait des pluies, mais maintenant, il n'y a plus. Il n'y a pratiquement plus de pluie. Donc, l'eau se fait rare et on fait face à des problèmes extraordinaires. Nous faisons face à des catastrophes qu'on n'a jamais vues.
Alors, dernier mot, Monsieur Yahya Zoubir, concernant la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Depuis longtemps que des voix s'élèvent pour que cette institution internationale cesse d'être un moyen de domination globale, notamment depuis la chute de l'Union soviétique. Est-ce que dans le contexte actuel, notamment après le sommet des BRICS, l'opération spéciale russe en Russie, en Ukraine, et tout le changement qu'ils ont apporté, peut-on espérer un pas vers une réforme de cette institution et de la manière de la gestion des affaires globales, mondiales?
En toute honnêteté, il y a des forces. Je connais des forces en Afrique. Il y a le C10 qui tente. C'est un groupe de pays qui se réunissent pour discuter de comment faire intégrer au Conseil de sécurité trois pays africains. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a certains qui poussent à l'entrée de l'Inde, du Brésil. L'Amérique latine et l'Afrique ne sont pas représentées. Oui. Au niveau du Conseil de sécurité. Et l'Europe bénéficie de trois, et l'Asie d'un seul. L'Asie qui a pratiquement un tiers de la population mondiale. Elle n'a que deux représentants. Un représentant. Donc vous avez 1,4 milliard d'habitants sur 3 milliards. Donc c'est incroyable. Un pays comme l'Inde avec 1,3 milliard et quelques millions qui n'est pas représenté. Et voilà. Et bien sûr, là, il faut, pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité, il faut voir au niveau des grandes puissances, parce que les grandes puissances, celles qui sont au Conseil de sécurité, même si elles disent qu'elles sont favorables à une réforme du Conseil de sécurité, il ne faut pas les croire toutes. Parce que certains, par exemple, la Chine, allez, la Chine verrait d'un mauvais œil l'entrée au Conseil de sécurité d'un pays comme l'Inde ou le Japon. C'est évident. Et vous avez aussi des pays dans le Conseil de sécurité, qui, par exemple, jouent le Nigeria contre l'Afrique du Sud, donc qui crée une rivalité entre l'Afrique du Sud et le Nigeria pour qui va entrer. D'accord. Donc, ils demanderont au Nigeria d'agir d'une certaine manière pour soutenir leur candidature éventuelle pour entrer au Conseil de sécurité. Mais ce qui a été érigé en 1944 avec le Bretton Woods System et tout ça, il est à réviser. Il est à réviser et c'est une bonne chose qu'en ce moment, il y a des changements, qu'il y ait les BRICS ou le groupe de Shanghai, etc. Cette multiplication, cette avancée vers un monde multipolaire pourrait être bénéfique à toute.
Je vous remercie, humanité. Professeur Yahya Zoubir. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à éclairer la situation en Libye et les voies de solution, tout en espérant que les choses vont évoluer, notamment lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies pour ce pays. Alors j'espère, professeur Zoubir, vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite beaucoup de succès.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik
Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.